si je devais comparer historiquement vôtre à un gâteau.
Alors attention Stéphane, c'est une pente glissante que la comparaison pâtissière. Hier, l'histoire de la grosse profiterole, on a frôlé le lapsus.
Non, ne vous en déplaise mon cher Mathieu, historiquement vôtre est une sorte de gros millefeuille.
Non mais alors.
Oui, oui, un millefeuille. Oh, une couche de rire, une couche de savoir, une couche de rire, une couche de savoir. On a l'impression que c'est énorme et pourtant en bouche ça passe très bien. C'est très
pas
léger.
Pas sûr d'avoir compris qui ou quoi était léger en bouche. Lui, en tout cas, il sait filer la métaphore pâtissière, le gras et sa passion, le sucre, sa maîtresse. Bonjour Olivier Pouls.
Bonjour les amis, je suis ravi de vous retrouver pour cette émission qui me sied comme un gant.
Bah oui, forcément, l'émission des végétariens.
Les végétariens, les végétaliens, les végans, etc.
Mais donc, qui sait Olivier, peut-être que vous prendrez ce chemin un jour quand la sagesse vous tombera dessus par
donc
hasard.
Soit je faisais valoir mon droit de retrait aujourd'hui, poser une journée de RTT, je ne venais pas, ou je venais vous parler de quinoa, de boulgour...
Ça peut être bon aussi.
Eh ben non.
Ah non.
Eh ben non. Aujourd'hui, je vais vous parler du steak tartare.
Oh,
un emblème de la gastronomie. Écoutez, je connais Aimé Caron, on a déjà eu l'occasion de discuter. Et je tiens à dire que je respecte parfaitement les gens qui ne mangent pas de viande. Ça ne me pose strictement aucun problème.
Tant
au contraire, ça en fait plus
pas,
pour moi.
Donc, ça n'empêche pas vous d'en bouffer.
Alors, le steak tartare, qui aujourd'hui est un emblème quand même de la bistronomie, on pourrait dire, française. Alors, vous savez, la cuisine aime beaucoup les légendes. Et les légendes un peu croustillantes. Alors, on attribuerait l'origine du steak tartare au peuple, les tartares d'ailleurs, peuple qui, au 11e siècle, étaient les alliés des Mongols, chevauchés dans ces grandes plaines de l'Est de l'Europe et qui avaient une tradition, dit-on, de manger de la viande crue, alors de la viande de cheval en plus.
Ah bah, encore mieux.
Et qu'ils découpaient en fines lanières, qu'ils mettaient ensuite entre le cheval et leur sel, et ils galopaient avec cette viande.
Avec la transpiration, non. ça faisait cuire.
C'est une légende.
Et surtout, ça attendrissait la viande. C'est probablement ça qu'effectivement le peuple faisait. Mais notre steak tartare d'aujourd'hui n'a rien à voir avec ces pratiques.
Vous me rassurez un peu, sinon je vais devenir végétarien encore plus rapidement.
Enfin, vous voyez pas des chevaux courir autour de Paris pour attendrir la viande.
C'est vrai.
Non, le steak tartare tel qu'on le mange aujourd'hui, il vient plutôt d'une tradition du 19e siècle et une raison pour laquelle on s'est remis à manger de la viande crue, parce que durant le Moyen-Âge, on avait oublié totalement cette pratique, pour des raisons qu'on comprend bien, vous imaginez l'hygiène, on avait plutôt tendance à cuire beaucoup et à faire bouillir la viande plutôt qu'à la manger crue. Et au 19e siècle, pour une raison que je vous invite à deviner, on se remet à manger viande crue. À partir des années 1860.
Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est pour avoir du fer, pour avoir des éléments, parce que ça dopait le sang,
c'est une raison
rouges.
Totalement médicale. Oui. Le corps médical de l'époque considère que manger de la viande crue, c'est excellent pour la santé, et notamment ça retape les malades. Alors, à l'époque, il faut savoir que la viande crue, elle se mange pas dans les bistrots, elle se mange dans les hôpitaux. On va jusqu'à 800 kilos de viande crue par jour dans les hôpitaux français. Alors, la viande crue, comme ça, c'est pas très très bon, donc il faut l'accommoder.
Donc on invente tous ces assaisonnements.
On invente des assaisonnements et puis progressivement...
La sauce Worcestershire, vous arrivez à le dire vous ?
La sauce Worcestershire,
qui est une sauce
un peu d'origine anglaise qui sert à accommoder le tartare. Parce que le tartare aujourd'hui c'est quand même un truc qu'il faut faire sérieusement. Et là je lance un tout petit coup de gueule envers nos amis les restaurateurs. Parce que trop souvent quand on mange du steak tartare au
restaurant... Ils n'ont pas besoin de coups de gueule en ce moment les amis restaurateurs.
Non, mais
ils viennent à peine d'ouvrir, certains doivent refermer et vous les engueulez.
Et on confond souvent steak tartare et bouillie pour bébé. Et vous avez steak tartare, vous savez qu'ils sont passés à la machine,
faut le couper au couteau, pardon. Mais
voilà la règle d'un bon vrai steak tartare.
Attendez, je prends des notes. C'est vrai que moi j'ai tendance à le faire un peu trop.
Ça fait 20 ans que j'ai pas dû manger un steak tartare.
C'est vrai.
Alors donc c'est effectivement les règles de l'art, c'est la viande coupée au couteau, du filet de bœuf ou éventuellement, moi j'aime bien avec la bavette aussi. Et puis l'assaisonnement classique, c'est relevé. Votre fameuse sauce Worcestershire, une cuillère de moutarde, un jaune d'œuf cru, très important, des fines herbes, un petit peu d'oignon, on peut rajouter un peu de tabasco ou de piment d'Espelette si on aime que c'est un petit peu de peps. Et puis ben voilà ça. Et alors ce que je vous engage aussi à essayer, pour essayer avec le magret de canard, c'est délicieux. Vous enlevez la couche de gras qui est au-dessus, c'est une viande qui se prête très très bien en tartare.
Aymeric Caron, j'ai une question parce qu'on en a parlé tout à l'heure, on n'a pas eu la réponse. Vous nous avez dit que vous mangiez les œufs de poule quand vous saviez que la poule n'était pas tuée. Comment? Alors moi j'achète des œufs bio, mais je ne sais pas comment trouver des œufs.
J'achète pas ces œufs-là.
Oui, j'imagine. Comment trouver des œufs dont on sait que les poules ne sont pas tuées? tuer ensuite.
Bah, alors, ils vont mourir de vieillesse, en fait.
Oui, qui vont mourir de vieillesse. Alors, il y a une marque qui s'est lancée là-dedans.
Faisons de la pub, parce que...
Mais oui, faisons de la pub pour cette entreprise qui a eu beaucoup d'audace.
L'entreprise Caron.
Non, je suis un très mauvais entrepreneur. Non, mais qui est soutenue, en revanche, par des investisseurs très sérieux, qui s'appelle Pool House.
Pool House. Voilà. Le jeu de mots est bon.
Oui, des, voilà, grande pub. Non, c'est très bien ce qu'ils font. Ils recueillent des, enfin, ils prennent des poules. Alors, soit elles sont recueillies, soit vraiment, c'est des poussins qui arrivent. Et ils garantissent. Alors, les œufs sont très chers, hein. Mais vous pouvez les trouver quand même dans des.
50 euros l'œuf.
Non, c'est pas 50 euros.
Mais il y a une autre solution. Si vous avez un cône jardin.
Alors ça, c'est l'autre solution.
Moi j'ai 12 poules.
Oui, mais alors, si vous voulez, à Paris, au lieu du 16e arrondissement, Stéphane, à part vous, et donc, les gens ont vraiment des jardins.
Alors, en fait, c'est
je vous expliquerai ça, je vous raconterai, on appelle ça la pauvreté.
Mais c'est pas à Paris.
Les inégalités, je vous donnerai des rapports, vous lirez tout ça.
Alors, et donc, ils garantissent, eux, que les poules ne sont pas tuées lorsqu'elles ne sont plus productives.
Eh bien, je pourrais rejoindre en partie Aymeric Caron sur ce sujet, parce que je trouve qu'effectivement, la manière dont aujourd'hui on élève, dans certaines conditions, les poules est inacceptable et il faut boycotter ces œufs-là. Mieux vaut manger du quinoa que des œufs produits dans ces conditions-là. Oui,
ou
d'accord.
Alors avoir effectivement une poule chez soi.
Olivier Pouls, Aymeric Caron, ensemble, main dans la main. Il n'y a que sur Europe 1 que vous entendez ça. Europe 1.